Bonjour Thierry Volton,
Bonjour.
merci beaucoup de me recevoir chez vous. Nous parlons d'une histoire mondiale du communisme, des deux premiers volumes qui viennent de sortir chez Grasset. Le premier volume s'intitulant Les bourreaux, le deuxième s'intitulant Les victimes. Pourquoi ne pas avoir nommé cette grande entreprise intellectuelle une histoire mondiale des méfaits du communisme?
Oui, c'était fait que j'aurais pu éventuellement. J'aurais pu aussi appeler ça une contre-histoire du communisme. J'ai pensé, il y a des gens qui m'ont dit pourquoi vous appelez une contre-histoire du communisme. Parce que je pense tout simplement que c'est vraiment l'histoire du communisme que je raconte. Et que c'est pas une contre-histoire ni des méfaits. Je pense que le communisme n'est que méfaits. Je suis désolé de le dire pour ceux qui éventuellement croient encore en ce système. Donc pour moi, il était clair que en faisant l'histoire mondiale du communisme, j'allais raconter cette histoire. Sauf que j'ai quand même conscience que j'ai une interprétation qui peut éventuellement être différente de celle que pourraient avoir d'autres historiens ou essayistes s'affronteraient à cette histoire. C'est bien pour ça que j'ai appelé ça une histoire mondiale du communisme. L'article est très important. Je n'ai pas la prétention d'avoir écrit l'histoire du communisme avec un L majuscule et un H majuscule, mais une histoire du communisme, et j'assume totalement l'histoire du communisme que j'écris. Voilà. Donc, maintenant, c'est vrai qu'à la lecture, on a l'impression qu'il n'y a question que de méfaits, mais comme je le disais tout à l'heure, je suis désolé, mais la nocivité du communisme est telle que c'est en effet les méfaits qui restent de cette histoire.
Est-ce que vous avez réfléchi à votre titre aussi après avoir écrit l'ouvrage? J'imagine que c'était ce titre-là que vous aviez retenu peut-être dès le début de cette entreprise, mais néanmoins, après avoir tout écrit, avoir cette somme d'écriture, vous êtes dit, est-ce que mon titre est correct finalement?
Je vais vous dire, d'une façon générale, ce n'est pas le premier livre que j'écris. Le titre est très important. Je choisis le titre avant d'écrire. Pour moi, le titre est condition de l'écriture, quelque part. Donc, dès le départ, je savais que ça s'appellerait Une histoire mondiale du communisme. Le découpage est venu un tout petit peu après, parce que je voulais le découpage en bourreau, victime et complice pour le troisième livre qui paraîtra dans 2 ans, est venu plus tard. Mais parce que ce qui me turlupinait, si je puis dire, dans le bâti du livre, c'était que d'abord je voulais que ça soit absolument un récit absolument global. Donc mon problème, c'était comment je vais faire, et je réfléchissais à ça, comment je vais faire pour pouvoir rendre compte de cette globalité dans sa diversité. C'est-à-dire que comment, par exemple, lorsque je parle des paysans, comment faire que j'arrive à parler des paysans en Union soviétique, les paysans en Chine, les paysans à Cuba, les paysans au Vietnam, etc. Bon, et à un moment donné, j'ai pensé que j'allais faire des onglets, vous savez, comme on fait dans une encyclopédie qui permettrait de renvoyer à des. Puis je ne vais pas m'en sortir, c'est pas possible. Et du coup, j'ai finalement fait ce découpage. C'est devenu d'ailleurs, c'est amusant parce que c'est, vous savez, comme souvent chez un auteur, en tout cas chez moi, ce sont des illuminations qui arrivent comme ça. Je marchais parce que je suis un marcheur quotidien, je marche au moins 1 heure et demie par jour, toujours au même endroit d'ailleurs, c'est une espèce de rituel. C'est un jardin des plantes qui est pas loin de chez moi, et c'était un jour en marchant dans le jardin des plantes, assez vite dans mon travail de, je n'avais pas commencé à écrire, j'étais à l'époque de la recherche encore, assez vite dans mon travail de recherche, et tout d'un coup j'ai pensé, bourreau. Victime, complice, et ça a été, mais vous savez, ça a été une illumination et une excitation. Vous imaginez, intellectuel, comme vous avez un éclair de génie, moi qui vous illumine, ah, j'ai mon cœur qui a battu, je dis, mais voilà, c'est ça mon découpage absolu, en rendant compte évidemment que, en faisant ce découpage, je prenais déjà parti, évidemment, hein, parce qu'on a-t-il pas une histoire mondiale du communisme avec des bourreaux, des victimes et des complices, ça veut dire déjà qu'on prend parti. Mais ça ne me gênait pas, parce que d'abord, je suis connu. Comme quelqu'un qui est anticommuniste, et j'en ai absolument pas honte, et je suis prêt à défendre ce point de vue devant quiconque. Je suis antitotalitaire, donc anticommuniste, forcément, puisque le communisme n'est qu'une forme de totalitarisme. Donc, je n'avais pas, ça ne m'a pas posé de problème moral de choisir ce découpage entre bourreau, victime, complice.
C'est-à-dire qu'à aucun moment, vous êtes dit que ça pouvait être un risque que votre livre soit pris de manière beaucoup trop dogmatique ou que vous-même vous preniez ce risque-là par ce découpage de vous entraîner vers une pente éminemment dogmatique, c'est-à-dire ce risque de figer la pensée aussi.
Alors, c'est bien sûr que c'est un risque. Et de toute façon, je n'arriverai pas à convaincre tout le monde. Il y a des gens encore qui aujourd'hui croient à l'idéologie, croient qu'elle a été mal appliquée, que finalement, s'il n'y avait pas eu Staline, Mao, etc., ça aurait peut-être été mieux. Si Trotsky avait pris le pouvoir, ça aurait peut-être été mieux, etc., etc. Ça, j'ai conscience de ça. Mais c'est pas à cela que je m'adresse, évidemment. D'abord, je voulais que cette histoire soit connue. Parce que cette histoire n'est pas connue. C'est pour moi un des grands silences de l'histoire, comme aurait dit Michelet. C'est une histoire qui n'est absolument pas connue. On sait aujourd'hui que c'est une mauvaise histoire, que c'est une histoire qui est pleine de drames, mais on ne connaît pas le détail du drame. Donc pour moi, c'était très important de raconter cette histoire. Donc je n'ai pas pensé du tout que j'allais braquer un certain nombre de gens. Je me suis dit, si je raconte cette histoire, il faut que je la raconte au plus près des faits. Et je me suis mis dans cette optique le plus près des faits et le plus près des hommes. Parce que ce sont deux choses qui ont été mon guide, si vous voulez. C'est que je voulais absolument être au plus près des faits et au plus près des hommes. Parce que souvent l'histoire, et particulièrement cette histoire dans les livres d'histoire et pendant des décennies, a été vue du côté de l'État, du côté de l'Union soviétique, de la construction du socialisme, etc., sans rendre compte vraiment de ce que ça coûtait en coût humain pour les hommes. Et ce côté humain, je l'ai voulu à la fois du côté de la société, mais même du côté des hommes d'État, si je puis dire, ou des bourreaux, pour reprendre mon découpage, c'est-à-dire des dirigeants de ce pays. J'ai voulu vraiment essayer de rentrer, pas forcément dans leur psychologie, mais essayer de comprendre leur raisonnement, pourquoi ils ont fait ça, etc. Donc c'est ce point de vue-là, si vous voulez, que j'ai voulu privilégier. Et quand j'ai vendu ce livre, parce que je l'ai vendu à un éditeur, parce que je suis quelqu'un qui vit de ma plume, je n'ai pas d'autre fonction dans ma vie que d'être écrivain. Quand j'ai vendu à un éditeur, ça coûte assez cher, vous vous rendez compte, de faire un livre sur plusieurs années comme ça. Quand j'ai vendu à l'éditeur Grasset, en l'occurrence, et Olivier Nora particulièrement, qui est le patron de chez Grasset, quand je lui ai vendu ce livre, je lui ai dit. Excusez-moi, je suis un peu ému parce que c'est exactement ce que je lui dis. Je lui ai dit, je veux prendre le lecteur par la main pour l'emmener dans ce drame. Je ne sais pas si j'y suis parvenu, parce que pour moi c'est un drame absolu. C'est le drame le plus grand que l'histoire de l'humanité ait connu. Je peux le défendre aussi, ce point de vue. Et donc, je voulais absolument entraîner. Je me suis dit, il faut que je prenne le lecteur dans ce drame. Et vous savez, tout au long de l'écriture, qui a duré des années, comme vous vous en doutez, tout au long de l'écriture, je me suis dit, Thierry, ne perds pas ton lecteur. Thierry, ne perds pas ton lecteur. Et si vous faites bien attention, il n'y a pas excessivement de noms. Je suis rentré dans beaucoup de détails, mais j'ai fait attention qu'il n'y ait pas des dizaines de noms qui se succèdent, des noms russes, des noms chinois, des noms tchèques, des noms hongrois qui sont impossibles à lire, pour un lecteur français en tout cas. Hein. Donc j'ai fait très attention à ça. J'ai vraiment voulu, un, le récit. Et deux, ne pas perdre mon lecteur et donc faire un récit le plus vivant possible, si je puis dire, alors qu'il y a beaucoup de morts.
Et pour cette grande entreprise, il fallait un seul auteur, une seule ambition, et comme vous voulez de l'énoncer, un seul grand récit.
C'était très important parce qu'il existe des livres, il existe des excellents livres sur l'Union soviétique, sur la Chine, qui sont souvent des sommes et même des, il y a même deux ou trois livres qui existent, qui donnent une vision globale du communisme. Je pense pas en France, mais dans le monde anglo-saxon, il y a deux ou trois livres qui existent, qui donnent une vision globale du communisme, mais qui sont effectivement des sommes de différents universitaires, hein, des spécialistes de l'international communiste, de la Chine, etc. Il n'y en a aucun qui, comme moi, si vous voulez, est un seul auteur. Alors, vous savez pourquoi? C'est pas que je suis plus génial que les autres, pas du tout, je suis pas plus intelligent que tous ces auteurs-là réunis, loin de là. Tout simplement, je suis plus libre, je m'explique. Pas, je suis plus libre, pas forcément politiquement, mais je suis plus libre institutionnellement. Les gens qui ont écrit ces livres, qui sont des livres excellents et qui m'ont été très utiles, soyons clairs, que j'utilise et que je cite abondamment dans mon livre, hein, ce sont tous des universitaires, généralement. Et un universitaire, il est spécialisé de quelque chose. Un de l'Union soviétique, un autre de la Chine, etc. Et aucun universitaire n'ira s'aventurer sur le terrain des autres, de peur de se faire, excusez-moi, flinguer par le collègue. Hein? Moi, je ne suis pas universitaire, je suis un écrivain, je suis libre, je peux aller sur tous les terrains que je veux, je n'ai pas peur de me faire flinguer par un collègue, j'en ai pas en l'occurrence. Donc voilà. Et je pense que c'était ce côté un peu mercenaire et libre qui fait que j'ai pu écrire ce livre d'un seul ton, hein, parce qu'il y a un seul ton dans le livre, qui est mon ton, évidemment, et effectivement, avec cette espèce de vision à la fois globale et en même temps qui se tient, parce que c'est un seul auteur, justement, qui le fait. Et je crois que c'est ce qui fait la force du livre, justement.
Parce que ce récit-là, généralement, l'historien, en tout cas l'historien français, c'est peut-être un peu différent pour l'historien anglo-saxon, pour lesquels il y a une importance aussi du récit, mais en France, peu encore. Cette importance du récit, concrètement, ce n'est pas du tout un roman, mais il y a néanmoins une plume, une verve, une langue, une syntaxe, une tournure de phrase qui fait que vous emmenez le lecteur vers des choses terribles, des actes terribles, des faits absolument bouleversants, mais vous l'emmenez avec vous par un certain usage technique de la langue et de ce qu'on appelle le récit.
Alors, vous savez, ce qui m'a aidé dans ça, je dois dire, c'est ma formation journaliste. Je suis journaliste de formation, donc un journaliste, il sait raconter des choses. Il est témoin d'événements, en général, et il raconte ces événements, parce que c'est son métier de raconter des événements. Donc, je pense que ça m'a considérablement aidé. Et si vous voulez, je n'ai pas honte de dire ça, parce que mon livre, je crois, j'arrive à tenir le lecteur, pas toujours, j'ai conscience que quelquefois le lecteur peut me lâcher parce qu'on rentre dans quelques tunnels qui sont difficiles, mais en général, j'essaie de tenir le lecteur parce que je mets en situation des faits, si vous voulez. Je les raconte. J'ai souvent pensé en écrivant ce livre à un conseil que m'avait donné un de mes... Je n'ai pas été très longtemps journaliste dans ma vie, j'ai une dizaine d'années par rapport dans ma vie professionnelle, un peu plus d'une dizaine d'années, mais enfin pas plus en tout cas, guère plus. Et un de mes patrons de presse qui s'appelle Claude Imbert et qui a dirigé pendant très longtemps, qui a fondé Le Point et qui a dirigé pendant très longtemps le Point, le journal l'hebdomadaire Le Point, m'avait dit un jour, m'avait convoqué dans son bureau, il m'avait dit: Thierry, vos articles sont vraiment bien, bien travaillés, mais il faut que vous appreniez à les draper un peu plus, à les draper. Vous savez, il avait fait ce geste enveloppant comme ça, comme on drape. Et combien de fois j'ai pensé à ça? Je me suis dit: Thierry, ne perds pas ton lecteur et drape ton récit, sans trahir, sans inventer des situations, sans mettre des situations qui n'existent pas, sans inventer des scènes de mon esprit. Il n'y a rien, aucun dialogue, aucune situation ne vient de mon esprit. Ça s'est vraiment passé comme ça. S'il y a des paroles, s'il y a des dialogues, ce sont des témoins de ces dialogues et de ces paroles qui les ont rapportés, et moi je me contente de les reprendre. D'ailleurs, en général, n'oublions pas que le livre est bourré de notes en fin de page qui permettent de voir où sont mes sources. Je n'invente rien, donc, mais c'est vrai que je mets en scène. Et je n'ai pas honte de mettre en scène, parce que ma mise en scène n'était pas faite pour tromper l'histoire. Elle est faite pour faire que l'histoire soit agréable à lire, si l'on peut dire, alors que c'est une histoire dramatique.
Vous avez donc un seul grand récit, vous en êtes absolument le seul auteur. Néanmoins, vous avez eu cette nécessité d'avoir constamment des très longues citations d'ouvrages qui viennent d'historiens, qui peuvent venir de journalistes, qui proviennent aussi de témoins qui ont écrit des livres et qui rapportent des faits. Très longues citations, c'est-à-dire qui sont sur généralement plusieurs paragraphes, qui peuvent être une page entière, une demi-page de livres, qui ponctuent tout le récit. Quelle fonction vous leur attribuez? Une fonction de preuve? Généralement, ils sont là pour très légèrement décaler votre propos.
C'est ce que vous appelez ces citations, elles sont bien marquées par un des encadrés,
oui,
qui sont assez discrets, mais on voit bien que c'est un encadré. La justification, le corps est un peu différent, la justification est un peu différente. Ils sont tous titrés, c'est très important, je voulais absolument que ça soit titré, et tous sourcés à la fin, donc c'est vraiment quelque chose qui vient en dehors du récit. On peut passer l'encadré, ça nuit pas au récit complet, on peut même éventuellement ne lire que, si on veut, on est feignant, que lire des encadrés dans un chapitre, pour avoir une idée d'un peu du chapitre. Bon, ces encadrés avaient plusieurs fonctions, effectivement, et j'ai toujours pensé que je le ferais. Une fonction de respiration, d'abord. Parce que c'est un récit très compact quand même. Hein. Donc, en ponctuant ça d'encadrer, je me disais, le lecteur va pouvoir s'arrêter un tout petit peu dans le récit et voir un peu différemment la chose que je suis en train de raconter. Bon, vous avez raison aussi, un récit a une fonction de crédibilisation. de ce que je dis. Ce n'est pas Thierry Walton, l'auteur, qui invente tout ça. Il y a bien la preuve, c'est que j'ai des témoins, il y a des documents, il y a des... Bon, parce qu'il y a à la fois des documents, des témoignages, il y a aussi du roman, quelquefois, hein, j'en cite quelques-uns, que j'ai beaucoup aimé. Bon, il y a donc tout un corpus de différents qui compose ces encadrés. Donc, ça me permettait aussi de crédibiliser. Et puis, je l'ai fait aussi, je ne vous le cache pas, sachant que je ferai un très gros livre. Je l'ai fait aussi en me disant, le lecteur moderne n'a pas forcément l'habitude de gros livres aujourd'hui, de nos jours, et au moins celui qui prendra le livre dans une librairie et qui le feuilletera un peu, eh ben, pourra tomber sur un encadré. Donc je l'ai fait un peu comme j'emploie ce mot, mais que j'aime pas beaucoup, qui est très moderne, le zapping. J'ai aussi mis des encadrés pour une fonction pour pouvoir picorer dans le livre, parce qu'il y a des encadrés qui en eux-mêmes se suffisent totalement et on a besoin à la limite de savoir ce qu'il y a avant, après, et les lire est déjà suffisamment épouvantable.
Vous reprenez à un moment, Thierry Wolton, cette phrase d'Arthur Koestler, « C'est le détail qui compte. Notre perception est incapable d'embrasser la totalité des événements. On ne peut isoler qu'une partie de la réalité. » Et vous continuez, écrivant ceci, « Le drame dans son ampleur devient alors inconcevable. Il perd son sens, ce qui permet de le négliger, voire au besoin d'en nier l'existence. »
Mais oui, c'est très important. Écoutez, on m'a souvent posé la question, depuis que le livre est paru, combien de morts ? Combien de morts sur le communisme ? Et je dis en général, je ne veux pas répondre à cette question. Je ne veux pas répondre à cette question parce que d'abord, je ne suis pas dans un hit-parade de morts, hein, je ne vais pas comparer avec d'autres, un mort est un mort, hein, une victime est une victime, qu'elle ait été victime du communisme, ou du nazisme, ou de tout autre, ou de l'inquisition, tout ce que vous voulez, peu importe, ou du capitalisme, du libéralisme, enfin bon bref, parce que souvent on peut dire, ah oui, vous parlez des morts du communisme, pourquoi vous parlez pas des autres, enfin bon bref. Donc pas de concurrence entre les victimes, ça c'est clair. Mais aussi parce que, et ça répond vraiment à votre question, aussi parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas concevoir. Un mort, vous voyez ce que c'est. 10 morts, vous voyez ce que c'est, 100 morts, vous voyez ce que c'est, 300 morts, vous voyez déjà un peu moins, 1000 morts, ça devient déjà quelque chose d'abstrait. Mais quand vous êtes dans des dizaines de millions de morts, vous êtes dans des abstractions totales. Et quelque chose qui est abstrait, c'est quelque chose qu'on ne peut pas appréhender. Donc, parler de dizaines de millions de morts, c'est impossible à appréhender. Donc, on est dans le domaine de l'inconcevable. Alors, le seul chiffre que je cite, parce que là, ça parle, et c'est un chiffre gigantesque, mais ça parle parce que c'est la situation même qui parle. Le seul chiffre que je cite vraiment dans mon livre, c'est le nombre de morts de faim sous les régimes communistes. Or, et ça, c'est très important, si on additionne toutes les famines, parce que un grand nombre de ces pays ont connu des famines, je ne dis pas que ces famines ont été organisées par le pouvoir, mais elles ont toujours été instrumentalisées par le pouvoir. Hein? Donc, il y a peut-être eu des conditions climatiques qui ont fait qu'il y a eu des sécheresses, etc. Mais à partir du moment où il y a eu famine, le pouvoir a instrumentalisé ces famines pour, en général, liquider des paysans qui étaient considérés comme arriérés, comme des freins au socialisme, à la construction du socialisme, etc., etc. Bon, bref, si on additionne des morts qui ont eu lieu en Union soviétique, en Chine, au Cambodge, en Corée du Nord, en Éthiopie, qui était à l'époque, à un moment donné, communiste, etc., etc., on arrive, et c'est pour ça que c'est le seul chiffre que je cite, on arrive en hypothèse basse à 50 millions de morts et en hypothèse haute à 70 millions de morts. C'est-à-dire, et c'est là que le chiffre parle, c'est-à-dire que le nombre de morts de faim sous le communisme est égal à la totalité des deux guerres mondiales, des morts pendant les deux guerres mondiales du XXe siècle. Voilà. Donc, c'est tout ce que je dis et je ne m'aventure pas ailleurs. Et c'est vrai que au bout d'un certain moment, le chiffre est tellement énorme que ça devient, je répète ce que je disais, une abstraction. Et une abstraction, ça ne se saisit pas. Et ce qui m'a intéressé, et le lecteur qui lira le livre le comprendra bien, ce qui m'a intéressé, c'est le destin de chacun. Et d'ailleurs, quand je parle des victimes, à chaque fois je détache des victimes. Alors il y a bien sûr des récits de groupe, j'entends bien, des chiffres qui sont cités. On fusille 70 000 personnes. J'ai dit bien 70 000, je n'ai pas dit 700, j'ai dit 70 000. Hein, on fusille 70 000 personnes. Bon, bien sûr, il y a des effets de groupe. Mais souvent, je raconte le destin à travers des histoires individuelles, de façon à ce qu'on touche au plus près le drame de chaque victime.
C'est-à-dire que vous arrivez à la fois à écrire une histoire générale, dans lesquels s'insèrent des bouts de micro-histoire. Vous n'êtes pas un partisan de la micro-histoire. Néanmoins, dans votre histoire générale, vous arrivez à particulariser.
Mais oui, parce que d'abord, vous savez, c'est quelque chose de terrible. Je vous disais tout à l'heure que je voulais écrire une histoire à hauteur d'homme, parce que souvent les historiens écrivent les histoires au niveau des États, des doctrines d'État, des intérêts géopolitiques, etc., etc. Mais on oublie que les États, les doctrines d'État, les idéologies même, ont un temps beaucoup plus long que la vie des hommes. Hein. Un homme, il vit un certain temps et puis il meurt. Hein. Et le pauvre homme qui vit sous un régime terrible, eh ben, il n'a connu que ce régime. Vous voyez, par exemple, je suis contre une idée que disait le général de Gaulle, qui disait que, oui, de toute façon, bien sûr, l'Union soviétique, parce que c'est... Je paraphrase, hein, c'est pas la phrase exacte, mais l'esprit était là. Il disait, bien sûr, le communisme, parce qu'il était anticommuniste, ça c'est clair, bien sûr, le communisme est un régime terrible, mais il passera, et à l'échelle de la Russie, ça ne compte pas. Mais pour ceux qui vivent sous ce régime-là, excusez-moi, pour l'homme qui est sous ce régime-là, c'est ce qu'il a connu, et c'est ce qu'il connaît uniquement. Donc, finalement, la Russie, je m'en fous de la Russie éternelle, moi. Hein. Ce qui m'intéresse, c'est l'homme qui vit sous le régime soviétique. Bien sûr que tous les régimes, bien sûr que toutes les nations sont éternelles, bien sûr qu'il y a des choses qui nous dépassent, etc. Mais pour celui qui vit au temps présent, eh ben, c'est ça qui m'a intéressé. Donc, c'est ce côté, c'est pour ça que dans cette histoire globale, dans cette histoire mondiale, je me suis arrêté sur les êtres humains. Je me suis arrêté sur ce qu'ils ont pensé, sur ce qu'ils ont vécu. Il n'y a pas uniquement de la souffrance, il y a aussi de la joie. Il y a des blagues, par exemple, qui sont racontées, qui sont des moments de joie. Bon, j'ai essayé de, à travers ça, de voir comment les gens ont vécu cette histoire. Qui est, je peut-être l'ai déjà dit, mais je suis prêt à le répéter, qui est à mon avis, à mon sens, à moi en tout cas, l'histoire la plus dramatique de l'histoire de l'humanité à l'heure où je parle.
Dans le deuxième tome, celui consacré aux victimes, et pour avoir déjà parcouru le tome 1, Les Bourreaux, avoir parcouru le début de ce tome 2 consacré aux victimes, il y a cette deuxième partie qui fait 300 pages, qui s'appelle Les Cercles de l'Enfer, qui soulève le cœur, pas autrement, il n'y a pas d'autre mot. Je voudrais connaître votre état d'esprit, les émotions, les sentiments que vous avez pu. À écrire cette longue partie, Les Cercles de l'Enfer, qui est là, on est dans le concret, non pas de la souffrance, mais dans le concret de la torture individuelle. Vous ne pouvez faire autrement que de décrire ce qui se passe, vous ne pouvez faire autrement que de décrire les faits. À un moment donné, il faut bien s'y confronter. On a tant de livres sur la Shoah où on a les faits crûment décrit et on en a pris l'habitude en les lisant. On ne peut pas faire autrement parce que c'est impossible de ne pas les prendre en compte et de ne pas se confronter à cette horreur-là. Vous avez fait donc de même sur tous les types de tortures, notamment inventées, utilisées au quotidien sur les populations. À lire, c'est pénible. On est obligé de le lire pour s'y confronter, pour c'est pas seulement un devoir de mémoire, c'est qu'à un moment donné, c'est la réalité. Et on ne peut faire autrement que de la lire et de la voir, mais vous, à l'écrire.
Ah, je vous cache pas que ça n'a pas été facile et que j'ai quelquefois, excusez-moi d'être un peu ému, j'ai quelquefois eu les larmes aux yeux. Je pense par exemple au récit qui m'a beaucoup beaucoup marqué, que je pense à ce récit particulièrement qui m'a vraiment marqué aux larmes. D'ailleurs, quand j'ai lu ce récit, j'étais dans le métro et j'ai pleuré. Et mes voisins m'ont regardé d'un air de dire, mais il est complètement... Il lit un livre et il pleure. Bon. Et ce livre, pour moi, c'est un livre que vos auditeurs doivent absolument lire. Il est beaucoup moins gros que mes livres et que c'est un livre, pour moi, c'est un des plus grands livres que j'ai jamais lu sur le communisme, en tout cas. Ça s'appelle Tout passe, hein, de Grossman. Et donc, non, Tout passe. Et dans mon livre, je prends trois passages de Tout passe qui concernent Macha, qui est une jeune femme, qui est arrêtée, qui ne sait pas pourquoi elle est arrêtée, parce qu'on est à l'époque de la Grande Terreur sous Staline, elle ne sait pas pourquoi elle est arrêtée, on lui a donné aucune raison d'être arrêtée, elle a été arrêtée alors qu'elle était en train d'étendre son linge, ou je ne me souviens plus très bien, enfin, elle a laissé son enfant en bas âge chez elle, enfin elle a été embarquée comme ça, sans rien prendre, on ne lui a pas dit où on l'en est, etc. Et donc, et je prends trois extraits de Tout passe, où Grossman, avec tout le talent qu'il a, raconte ça d'une façon déchirante, où elle est où elle est prise et emmenée à la gare où elle va être prise, où elle va être mise dans des wagons à bestiaux. Hein. Puis il y a le transport, où elle, son arrivée au camp, et puis à la fin, elle va mourir parce qu'elle va mourir d'épuisement, parce qu'elle est incapable de remplir les normes. Bon, bref. Et je prends ces trois moments. Et à chaque fois, c'est un passage très, très poignant parce que elle ne perd jamais espoir qu'on se soit trompé. Elle ne perd jamais espoir qu'elle est victime d'une erreur, que c'est pas possible, qu'elle n'a rien fait, etc. Et c'est cet espoir qui se rattache à son enfant qui l'attend, et elle se dit « je vais retourner », etc., etc. Donc, je vous cache pas que c'est une chose de lire, c'est une chose de le reproduire, parce que j'ai pas fait du copier-coller pour le reproduire, je l'ai réécrit. Je l'ai pas réécrit dans le sens, je garde les livres, mais je l'ai tapé moi-même à la machine, si vous voulez, sur mon ordinateur. Donc c'est difficile, et c'est vrai que lorsque vous tapez des listes de torture, lorsque vous tapez les règlements qu'il y avait chez les Khmers Rouges, dans la prison de Tualong 5, qui était une prison d'extermination, c'est-à-dire que ceux qui y rentraient allaient de toute façon mourir, hein, et il y a eu 12 300 personnes qui sont mortes à cet endroit-là, ce qui, à l'échelle de le Cambodge, représenterait en France à peu près 300 000 personnes, ce qui représenterait aux États-Unis à peu près 1 million de personnes qui seraient mortes au même endroit. Hein. Donc, lorsqu'on voit le règlement qui est affiché sur la porte de la cellule collective, ou de toute façon qu'ils ne peuvent même pas lire, parce que de toute façon ils ne sont pas debout, ils sont allongés par terre et enchaînés les uns aux autres, allongés par terre sans droit de bouger pendant des journées entières, dans leurs besoins. Hein, d'accord, n'oublions pas cet aspect là, hein, donc et qu'on voit j'ai le droit de taper, il faut pas répondre comme ça au gardien, si vous répondez comme ça vous prenez un choc électrique, etc., etc. Lorsque vous voyez ça, vous dites, mais ce qui a été le plus incroyable, si vous voulez, dans cette descente en enfer, pour moi, ça a été comment des hommes peuvent-ils faire ça à d'autres hommes. Et je n'ai pas arrêté, et aujourd'hui je n'ai pas la réponse à ça. Alors, ce que je dis du communisme, c'est évidemment vrai du nazisme, c'est évidemment vrai du SS, etc. J'ai conscience que les hommes, depuis la nuit des temps, que des hommes ont fait du mal à d'autres hommes depuis la nuit des temps. J'en ai conscience que c'est pas évidemment une spécificité du communisme, loin de là. Hein. Bon, mais ma question, elle est valable pour le communisme, elle est valable pour tous les autres types de souffrances à partir du moment, et aujourd'hui, par exemple, en Syrie, on sait qu'il y a des gens qui sont torturés sous Assad, etc. Bon, bref. La question, et je pense que c'est la vraie question qu'on doit se poser à chacun, je veux dire nous-mêmes, je veux dire moi-même, vous, les auditeurs, etc. Comment se fait-il ? Je n'ai pas la réponse, encore une fois, mais je pense qu'il faut qu'on arrive à se poser cette question d'une façon récurrente. Peut-être que ça changerait un jour si les gens prenaient vraiment conscience. Comment des hommes peuvent-ils faire ça à d'autres hommes ? Parce que c'est incompréhensible. Comment on peut faire souffrir autant les gens ? C'est incompréhensible pour moi, incompréhensible. Je suis désolé de ne pas avoir la réponse.
Juste pour la petite aparté, il faut impérativement lire aussi la biographie de Myriam Anisimov sur Vassili Grossman.
Bien sûr.
Qui permet aussi d'avoir envie de lire Passe, oui. D'avoir aussi envie de lire ce plus gros volume qui s'appelle
Vie et Destin.
Vie et Destin. Ce que vous venez d'énoncer, Thierry Bolton, et l'émotion que vous nous faites partager, c'est aussi parce que le communisme, c'était pas la même idéologie que le nazisme. Oui. Que ça a duré sur beaucoup plus d'années, mais que surtout, ce n'était pas la même idéologie.
C'est pas la même promesse, ça n'a rien à voir. C'est finalement, la trahison est beaucoup plus grande, quelque part. C'est là où l'horreur prend vraiment sa dimension. Parce que dans le nazisme, après tout, bon, c'était une race supérieure, les autres sont des sous-hommes, on va les éliminer. Bon, les juifs en premier, mais d'autres après, les slaves aussi, etc. Bon, bref. Donc, à la limite, je dirais, le nazisme, à part le peuple allemand, il exclut tous les autres. Bon. Dans le communisme, il y a une formidable espérance, excusez-moi. Alors, on peut ne pas y croire, c'est autre chose. Bon, mais il y a une formidable espérance de dire c'est une idéologie qui est au service de l'homme, au service en général des plus déshérités, à qui on promet que le système qui va être instauré sera un système bien meilleur, que tout le monde finira à être égaux, qu'il n'y aura plus d'État pour vous opprimer, etc. C'est ça le communisme, il n'y a plus d'État, il n'y a plus rien normalement. Hein. Donc, tout d'un coup, vous prenez conscience que cette promesse a caché finalement le plus grand drame de toute l'histoire de l'humanité. Pourquoi le plus grand drame ? Parce que Il a duré plus longtemps que tous les autres. Il n'y a aucune comparaison. Le communisme a duré 70 ans, et encore, il n'est pas fini, puisque dans certains pays, il est encore là, pensant à la Corée du Nord, pensant à la Chine, pensant au Vietnam, pensant au Laos, pensant au Cuba, qui est encore un pays comme dirigé par un parti communiste. Bon, donc, ça continue aujourd'hui. Il a touché beaucoup plus de gens, il a duré beaucoup plus longtemps que les autres formes de totalitarisme, ce qui fait évidemment que l'ampleur du drame est bien plus grande. Alors, encore une fois, je ne fais pas de concurrence parce que pour celui qui est mort dans un camp d'extermination nazi, hein, à Auschwitz ou ailleurs, ou pour celui qui est mort d'une famine instrumentalisée par le pouvoir soviétique ou chinois, peu importe, ça revient au même. Il est victime, il est mort, il est victime du système. Hein. Donc je ne fais pas de concurrence encore une fois, mais de fait... Si on voit comment ça a fonctionné et du fait que ça a touché tellement de gens et c'était porteur d'une telle espérance que du coup le regard doit être un peu différent et finalement le crime devient quelque part plus immense parce qu'il n'y a rien de pire que trahir la confiance des gens.
Oui, il y a une particularité historique des crimes communistes. Une particularité qui, effectivement, si on prend l'histoire de l'humanité, on sait bien de tout ce que... tout ce dont est capable l'homme, de toutes les dégueulasseries qu'il est capable de faire depuis qu'il existe des hommes, et en tout cas depuis qu'il existe des civilisations, depuis que l'homme vit en groupe. Mais néanmoins, de même qu'il y a une particularité indéniable de la Shoah et d'Auschwitz, de même, il y a une particularité indéniable des crimes sous le communisme.
Oui, bien sûr, cette particularité, encore une fois, c'est parce que elle est d'autant, oui, vous avez raison, elle est d'autant plus importante cette particularité que, au-delà du bourreau et des victimes qui sont l'objet de ces livres, donc du communisme qui a été au pouvoir, puisque mes deux premiers livres, il faut le préciser, ceux dont on parle, ne concernent que les pays communistes, c'est-à-dire les pays qui ont eu un parti communiste, qui ont pris le pouvoir, hein, et donc il n'est pas question des partis qui n'ont pas été au pouvoir, comme le Parti communiste français, le Parti communiste italien, etc. Ça sera l'objet du troisième volume. Mais il est incontestable que le communisme a une particularité, dans le sens où, encore une fois, j'en reviens à l'idéologie et à l'espérance qu'il a, que cette idéologie a procuré au fil des décennies, c'est que en dehors de ces pays qui ont été communistes, le communisme a aussi occupé les esprits et beaucoup. Donc, si vous voulez, il y a dans le communisme une dimension, je dirais, spirituelle, intellectuelle, qu'il n'y a pas eu dans le nazisme, pour les raisons que j'expliquais tout à l'heure, parce que le nazisme, ça concernait le peuple allemand, qui était le peuple élu. Bon, bref, le communisme, ça concerne tous les peuples, toutes les nations, les prolétaires du monde entier, hein, unissons-nous et tout ça. Donc il y a une espèce de je dirais, c'est l'ensemble de l'humanité qui est en cause, si vous voulez. Hein. Bon, et le fait que ça a occupé tous les esprits, ça fait la particularité incontestable du communisme, parce que occupant les esprits, ça a permis d'occulter la réalité, parce que l'idéologie a pris le pas sur la réalité, dans ces pays-là, bien sûr, mais bien plus à l'extérieur. Hein. On n'a pas vu voir les choses, on n'a pas voulu entendre ce qui se passait, parce que ce qu'il faut savoir, ce qu'il ne faut pas oublier absolument, c'est que dès le premier jour, je dis bien dès le premier jour, on savait ce qui allait se passer. Dès le premier jour, il y a des gens qui ont dit « Attention, quand ils ont pris le pouvoir, les bolcheviks, le 25 octobre 1917, dès le 26 octobre 1917, ils ont interdit la presse, toute la presse, sans aucune exception, à part la leur. » Donc, dès le premier jour, on pouvait se rendre compte que c'était une dictature qui se mettait en place. Bon, donc, et il y a des gens qui l'ont dit, qui n'étaient pas des réactionnaires et des nobles et tout ça, c'était en général des révolutionnaires qui comprenaient qu'ils allaient être les premiers à passer à la casserole, si je puis dire. Hein. Bon, donc, on savait dès le départ. Donc, mais le fait que cette idéologie, avec cette espérance que ça portait, cette idéologie a permis de masquer cette réalité dans ces pays-là, mais encore plus à l'extérieur. Et je pense que c'est ça la spécificité extrême du communisme. C'est-à-dire que quand on a découvert les crimes nazis, on a été bien sûr effaré par leur ampleur, effaré par ce que ça représentait. Mais en vérité, on se doutait bien, parce que ça avait été écrit dans Mein Kampf, etc., qu'il allait y avoir des massacres, que le peuple allemand, en tant que peuple élu, allait zigouiller des sous-peuples. Mais quand vous lisez Marx, quand vous lisez Lénine ou Mao, vous n'allez pas savoir que forcément il y aura des goulags, il y aura des exécutions massives, il y aura des famines organisées, etc., etc. Donc voilà, c'est là où la particularité est plus grande.
Mais c'est là où c'est votre thèse principale, l'idéologie est en cause. Vous l'écrivez clairement. L'idéologie, surtout,
qui a occupé l'esprit des hommes autant qu'elle a obstrué leur conscience, qui leur a indiqué l'avenir comme elle a contrôlé leur passé, est sans conteste la cause première de l'hécatombe.
Mais bien sûr, ceux qui veulent sauver l'idéologie avec l'eau du bain, si je puis dire, le bébé d'idéologie avec l'eau du bain, ils ont tort, parce que, pour de multiples raisons que je vais expliquer, mais c'est évident que l'idéologie est responsable. Elle est responsable pourquoi ? D'abord, le ver est dans le fruit marxiste. Hein ? Et je vais vous dire la phrase la plus terrible, à mon avis, qui n'ait jamais été écrite par un intellectuel. Je dis bien sûr qu'il n'est pas forcément responsable de ce que cette phrase a procuré par la suite, parce qu'on ne peut pas être responsable de ce qui va se passer après sa mort, soyons clairs. Mais de fait, on a quand même quand on est intellectuel, on a des responsabilités, quand on écrit un certain nombre de choses, on a des responsabilités. Bref, la phrase la plus terrible qui est écrite Karl Marx est la suivante. Le moteur de l'histoire, ou la lutte de classe, est le moteur de l'histoire. La lutte des classes est le moteur de l'histoire. Cette phrase qui paraît apparemment banale, hein, qui, encore une fois, soyons clairs, Karl Marx n'a pas inventé la lutte des classes. Hein. Par contre, il a inventé le déterminisme historique, ça c'est clair. Donc cette idée que la lutte des classes est le moteur de l'histoire, c'est qu'on peut comprendre le mouvement de l'histoire à travers la lutte des classes. C'est-à-dire, et je vous dis pourquoi cette phrase est criminelle, c'est-à-dire que pour avancer dans l'histoire, il faut de la lutte des classes. D'accord ? Puisque c'est le moteur de l'histoire, vous avez besoin de lutte des classes pour avancer dans l'histoire. Donc, lorsque vous construisez le socialisme pour arriver au communisme, le stade suprême, hein, du bonheur promis, vous devez faire de la lutte des classes, parce que vous devez avancer dans l'histoire. Bon. Donc, au nom de cette lutte des classes, eh ben, on a commencé à éliminer les intellectuels, les opposants, les paysans, etc., etc. Donc, c'est comme une espèce de chaudière, si vous voulez, une espèce de machine infernale qui avance et qu'on a chargé au fur et à mesure des corps des victimes des luttes, de la lutte des classes. Mais cette lutte des classes, elle n'a pas épargné non plus les partis communistes. Les purges qu'ont connues tous ces partis communistes, sous Staline, sous Mao, etc., c'est aussi une forme de lutte des classes, hein, parce qu'il fallait éliminer pour avancer dans l'histoire. Et vous savez, il y a un truc qui est terrible, que je rappelle dans le livre, une phrase terrible, je ne la connais pas d'une façon par cœur, donc je vais en faire la paraphrase, mais on sort de la Grande Terreur. La Grande Terreur, c'est 1937-1938 sous Staline, d'accord ? Il y a eu 1 700 000 morts de Grande Terreur, pendant cette Grande Terreur. Hein. Et une partie d'ailleurs du Parti communiste soviétique est aussi passée dans les poubelles de l'histoire, si je puis dire, et un certain nombre de cadres du parti ont été liquidés dans cette Grande Terreur. Bon, on sort de la Grande Terreur. Et qu'est-ce que dit Staline ? Il dit « Plus on avance en socialisme, plus la lutte des classes s'exacerbe et plus il va falloir lutter ». C'est une mécanique infernale, vous comprenez ? Et donc, il y a cette espèce de volonté, cette espèce de roue rouge, comme le dit Solzhenitsyn. Solzhenitsyn a employé ce terme de roue rouge, que je reprends d'ailleurs dans mon livre. C'est une magnifique expression, une roue rouge qui est là, qui avance, qui inexorablement, et qui est là pour écraser les êtres, et qui écrase de fait les êtres. Bon. Donc, cette phrase, la lutte de classe moteur de l'histoire, est responsable de dizaines de millions de morts. Mais maintenant, prenons l'autre aspect des choses, parce qu'on ne peut pas séparer Marx de son application, c'est-à-dire Lénine. C'est pour ça que dans le livre, je parle toujours du marxisme-léninisme. Lénine a tout inventé, c'est Lénine qui a tout inventé, les autres, Staline, Mao, etc., n'ont fait que mettre en musique ce qu'il a inventé. La construction du socialisme tel qu'on connaît, du totalitarisme socialiste, communiste, parce que j'aime pas beaucoup employer le terme de socialiste pour pas confondre avec les socialistes de nos jours, etc., qui n'ont rien à voir et qui, de façon générale, n'avaient rien à voir avec cette histoire-là. Donc, en tout cas, du totalitarisme, c'est Lénine qui l'a inventé. Pour une raison simple. J'espère qu'on a un peu de temps pour comprendre la situation. Marx s'est trompé. Marx a annoncé que le socialisme était le stade après le capitalisme, parce que le capitalisme avait des contradictions telles dans son mode de fonctionnement que, de toute façon, il allait disparaître. Et que ces contradictions étaient que les ouvriers seraient de plus en plus exploités, de plus en plus pauvres, hein, et qu'à un moment donné, n'en pouvant plus, ils allaient briser leurs chaînes. C'est ça, grosso modo. Je caricature un tout petit peu, mais le raisonnement global, il est là. D'accord ? Sauf qu'il s'est complètement trompé, parce que le capitalisme en avançant, je ne dis pas qu'il a enrichi tout le monde, mais il a commencé à enrichir les êtres humains, par le commerce, par tout ça, etc. Alors je ne dis pas qu'il n'y a pas des inégalités aujourd'hui, bien sûr qu'il y en a toujours, sauf qu'on est bien plus riche en ouvrier aujourd'hui en 2015, et bien plus riche qu'un ouvrier en 1870. Hein, bon, et ça n'a rien à voir. Bon, donc l'ouvrier, il a commencé à s'enrichir. Au lieu de s'appauvrir, il a en vérité commencé à s'enrichir. Il a pensé à posséder des biens, etc. Donc la révolution, il s'en foutait. Il n'avait plus envie de briser ses chaînes. Ce qui l'intéressait, c'était d'obtenir un peu plus de confort, etc. Donc l'idée révolutionnaire qui devait être obligatoirement amener le monde au socialisme est tombée à l'eau. Par le simple fait que le capitalisme ne conduisait pas à ça. Alors, Lénine, qui est un pur intellectuel, petite parenthèse pour vos éditeurs, il faut savoir qu'aucun dirigeant communiste, j'ai dit bien aucun dirigeant communiste n'a jamais touché une clé à molette, ni vissé une vis. D'accord ? Ce sont tous des intellectuels petits bourgeois, sans aucune exception, à l'exception, excusez-moi, la seule exception justement, c'est Staline, parce que Staline vient d'un milieu très populaire, hein, mais les autres sont tous des petits bourgeois, Lénine, Mao, Castro, Ho Chi Minh, Kim Il-sung, etc., etc. Il n'y a pas d'exception, d'accord ? Bon, donc ce pur intellectuel qui était Lénine, ce pur idéologue intellectuel qui était Lénine, qui avait envie de faire la révolution parce que, bon bref, pour de multiples raisons, était très embêté parce qu'il voyait bien que ça ne marcherait pas et que les prévisions marxistes ne marcheraient pas. Alors il a eu l'idée, et c'est le deuxième livre, tout à l'heure, je vous parlais de la phrase de Karl Marx, le moteur de l'histoire, c'est la lutte des classes et le moteur de l'histoire. C'est une phrase qui est dans le manifeste du Parti communiste de 1848. Le deuxième livre important, et il suffit de lire ces deux livres, ça suffit, on comprend tout le mécanisme. Le deuxième livre important, c'est celui d'Ennis, qui s'appelle Que faire, qui est paru en 1902, donc avant la prise du pouvoir, bien avant la prise, 15 ans avant la prise du pouvoir, dans lequel il dit, bon, puisque, il ne dit pas exactement comme ça, mais qui revient à ça, bon, puisque la classe ouvrière ne peut pas faire la révolution, nous allons le faire à la place de la classe ouvrière. Donc nous allons construire un parti de révolutionnaires professionnels qui vont prendre le pouvoir au nom de la classe ouvrière et qui vont instaurer la dictature du prolétariat au nom du prolétariat. D'accord ? Cette démarche typiquement idéologique, eh ben, va conduire à la catastrophe parce que ce sont des idéologues qui vont prendre le pouvoir et comme l'idéologie ne correspond pas à la réalité puisque ces pays n'ont pas fait de révolution populaire, c'est pas le peuple qui a pris le pouvoir, etc. Ce sont un groupe d'intellectuels en général qui ont pris le pouvoir, eh ben, ils vont imposer l'idéologie au système, et c'est l'imposition de cette idéologie avec la négation de la réalité, c'est en vérité de l'homme, tout simplement parce que la réalité c'est l'homme, hein, avec la négation de la réalité qui fait que ça devient si mortifère.
Si on continue avec cette histoire de l'idéologie, vous allez même plus loin, vous dites, Thierry Volton, que cette idéologie a flatté les plus bas instincts de l'homme. Je vous cite. « L'égalitarisme répond à des ressorts humains qui tiennent davantage de la haine de l'autre que de l'amour de son prochain. »
Oui, c'est très important et j'aborderai ce problème plus en détail parce que plus je travaille sur ce système-là, plus je le comprends bien, si je puis dire. En tout cas, ce que je vais dire là, c'est qu'effectivement, il y a aussi une autre imposture gigantesque, moi je trouve, en ce qui concerne le communisme, c'est ça qui est si douloureux aussi, et si difficile à admettre d'ailleurs de nos jours, parce qu'on n'aime pas s'être trompé. Hein. L'homme, d'une façon générale, n'aime pas s'être trompé. On considère en général que le communisme est une idéologie du bien. Finalement, c'est le peuple qui va prendre le prolétariat, les plus pauvres qui vont prendre le pouvoir et qui vont parce qu'ils n'ont rien à perdre, comme disait Marx, puisqu'ils n'ont rien à perdre, ils vont pas commencer à brimer les autres. Hein. Bon, de fait, on sait bien que ça s'est pas passé comme ça. Bon, donc cette croyance, parce que c'est une croyance, cette croyance qui dit que le communisme est quelque chose de bien, on la retrouve chez les militants communistes, bien sûr, ailleurs que dans les pays communistes, j'entends. Et si vous regardez toute la littérature des années 50, 60, 70, en France, on parle de la fraternité communiste, on est bien par rapport à ces salopards de bourgeois qui sont des individualistes, etc. Nous, on est ensemble, etc. Dans une certaine mesure, c'est vrai, sauf qu'on oublie de dire qu'on est ensemble contre les autres et qu'on est toujours ensemble contre quelque chose. Et le communisme ne se construit pas pour quelque chose, il se construit contre quelque chose. Et à partir du moment où on se construit contre quelque chose, vient un facteur terrible, le pire des sentiments humains, c'est l'envie qui est le fruit de la haine. Donc, on se construit contre le bourgeois, on se construit contre le capitaine d'industrie, on se construit contre l'intellectuel qui ne pense pas comme nous, on se construit contre le paysan qui est attaché à la terre et qui évidemment n'a rien compris, que finalement tout ça s'est arriéré, et que bon bref, on se construit contre. Et se construisant contre, on introduit un facteur Alors, tant plus d'envie, de haine, parce que quand on y réfléchit bien, si tout le monde... Vous savez, la phrase la meilleure qui existe dans le livre, justement, à propos de ça, c'est celle qu'a proposée Yang Sari, qui est un dirigeant Mer Rouge, qui dit à un moment, dans un des cours qu'il donne à des communistes, il dit, vous savez ce que c'est que le communisme ? Ben, le communisme, c'est zéro pour toi et zéro pour moi. Cette espèce de nivellement par le bas. Vous voyez ce que je veux dire ? Hein ? Bon. Donc, à partir du moment où vous donnez l'espérance aux gens de pouvoir tout ramener à zéro, si je puis dire, ou à égalité, vous flattez cet aspect égalitariste, parce que si vous réfléchissez bien, vous, moi, et les auditeurs qui nous écoutent, on a toujours une envie de quelque chose de plus que le voisin. Par exemple, il a une plus belle voiture, il a une meilleure maison, il a un plus beau poste de télévision, etc. etc. Ce sentiment d'envie, on l'éprouve tous par rapport à quelqu'un, parce que hiérarchiquement, le patron est mieux habillé, enfin, etc., etc., etc. Bon, bref. Donc finalement, le communisme repose par son côté égalitariste, repose sur ce sentiment. Ce sentiment diffus que nous avons tous de, finalement, de dire « je prendrai ma revanche sociale parce que grâce au communisme, je vais être égal à toi, hein, qui est supérieur à moi parce que tu gagnes plus d'argent, parce que tu es plus intelligent, parce qu'il y a des gens qui sont plus intelligents que d'autres, excusez-moi de vous le dire, c'est vrai, hein, on n'est pas tous égaux au point de vue des cerveaux. » Bon, bref, donc ce côté égalitariste, évidemment, entraîne les gens à vouloir détruire l'autre. Et finalement, cet aspect amour, fraternité communiste, c'est du bidon. Et c'est plus que du bidon, c'est une imposture quelque part, parce que je comprends, et je comprends de plus en plus j'avance dans ce système, parce que je suis en train de travailler sur des gens qui ont cru au communisme sans être au pouvoir, donc sur les intellectuels, sur les hommes d'affaires, sur tout ça, etc. Bon, bref, plus j'avance dans cette compréhension du système idéologique, plus je m'aperçois qu'il repose sur le sentiment de haine, qui est un sentiment terrible et qui permet d'ailleurs de comprendre les tueries terribles qui ont été faites. Et je fais une petite parenthèse. Les partis communistes qui ont été au pouvoir ont justement bien utilisé cette haine. Parce que si vous y pensez, si vous regardez comment ont été organisées les grandes tueries, je ne parle pas forcément des déportations, mais je pense justement des collectivisations dans les campagnes. Tous les partis communistes qui ont été au pouvoir ont entrepris des collectivisations. Ces collectivisations, il fallait du monde pour l'organiser, pour surveiller, pour piquer les grains des soi-disant paysans plus riches que les autres, etc. Eh bien, c'est pas la police politique qui a fait ça, je veux dire. Évidemment non, parce qu'il aurait fallu des milliers de policiers. Il y en avait des milliers, mais il aurait fallu des dizaines de milliers. Il fallait bien qu'il y ait des gens du peuple. Hein ? Qu'est-ce qu'ont fait les communistes ? Sans aucune exception, dans tous les pays, ça a été ça. Ils ont pris les plus pauvres, hein, les plus envieux, donc quelque part ceux qui n'avaient rien à perdre de ce côté-là, ils respectaient un peu la théorie marxiste, hein, ils n'avaient rien à perdre, mais ils les ont instrumentalisés pour aller dans les maisons, détruire les choses, prendre des grains et tuer éventuellement les gens. Hein ? Et les gens l'ont fait avec violence, avec cette violence de revanche sociale contre celui qui a plus que moi, vous voyez ce que je veux dire ? Et c'est cette espèce de rencontre entre l'idéologie, l'envie, la haine qui fait que le communisme a été si meurtrier.
Vous écrivez d'ailleurs dans cette partie consacrée aux victimes, dans cette partie qui s'appelle l'homo communistus, je vous cite, « L'homme nouveau que ces régimes ont prétendu vouloir construire est un individu traumatisé par la violence, frustré de tout accomplissement personnel, soupçonneux envers ses semblables, préoccupé par son seul devenir quotidien et incapable de se projeter dans un avenir meilleur. »
Oui, bien sûr, parce que si vous prenez tous les éléments que j'emploie, c'est terrible, parce que finalement, il n'y a que des victimes dans cette affaire-là. Alors, il y a bien sûr quelques dirigeants qui en ont profité considérablement, pas pour s'enrichir, j'entends bien, mais les inégalités étaient terribles, parce que c'était la pire des inégalités, c'était qu'ils avaient le droit de vie et de mort sur n'importe qui. Donc ça, excusez-moi, c'est la pire des inégalités. Si vous avez le droit de tuer quelqu'un, c'est donc une inégalité terrible par rapport à celui qui va mourir. Bon, bref. Mais c'est vrai que le système a été fait de telle façon que tout le monde était perdant. Tout le monde est perdant. Et quand vous parlez de... c'est vrai que je fais toute une partie... On a parlé tout à l'heure de la partie consacrée au cercle de l'enfer, c'est-à-dire tout ce qui s'est passé, les tortures, les goulags, etc., les famines. Mais il y a aussi cette partie dont vous venez de citer l'homo communistus, parce que j'y tenais absolument. Je voulais raconter le quotidien du communisme. Parce qu'il y a quand même des gens qui ont survécu, quand même, hein, et qui ont vécu sous le communisme. Tout le monde n'est pas mort, heureusement, pour les populations en question. Bon, bref. Mais c'est... Alors, c'est justement là où on tombe dans certains mythes, où certains mythes tombent du genre « Ah, mais c'était mieux parce que sous le communisme, parce que tout le monde allait à l'école, tout le monde était lettré, les femmes étaient mieux considérées, etc. » Tout ça, c'est faux. Tout ça, c'est faux. Sans aucune exception. Tout ça, c'est l'idéologie qui nous l'a fait croire. Si on regarde dans le détail comment ça se passait, ce n'était pas comme ça. C'est pour ça que je dis tout le monde était victime, parce que finalement, l'homme, et c'est ça le système totalitaire, l'homme était pris en charge de sa naissance à sa mort. Hein. Éventuellement, on le mariait d'ailleurs. Éventuellement, on surveille, aujourd'hui encore en Chine, c'est exactement ce qui se passe. On surveille combien de rapports sexuels il doit avoir pour avoir combien d'enfants il a le droit d'avoir. Hein. Un enfant, 2 heures maintenant. Maintenant, dans sa grande générosité, le régime chinois va permettre 2 enfants. Hein. Bon, mais bon, donc la surveillance est totale. Donc vous n'êtes pas libre, donc vous ne savez pas même quel va être votre destin, parce que votre destin il dépendra toujours, éventuellement, finalement, de celui qui a le droit de vie ou de mort sur vous. N'oublions pas ça. Hein. C'est le destin final, excusez-moi, la mort, c'est le destin final de chaque homme. Hein. Donc dans un système totalement arbitraire, où vous ne savez pas si vous allez être arrêté, pourquoi, comment, etc. Parce que souvent, la plupart, quand je dis souvent, dans la grande majorité des cas, les gens ne savaient même pas pourquoi ils étaient arrêtés, pourquoi ils étaient déportés, pourquoi ils allaient mourir dans des camps au fin fond de la Sibérie ou ailleurs, hein, ou du Xinjiang pour la Chine. Bon, donc vous avez une prise en charge, votre destin vous échappe. Mais c'est ça le totalitarisme. Le totalitarisme, et c'est ce qui fait la différence entre le totalitarisme et la dictature, ça n'a rien à voir. Une dictature, c'est un pouvoir fort qui vous opprime, qui vous tape sur la tête si vous dépassez éventuellement votre tête, etc. Le totalitarisme, c'est un système qui a la prétention de vous transformer, de faire en vous, vous parliez tout à l'heure de l'homme nouveau, de faire en vous un nouvel homme, donc de prendre en main totalement votre destin, de faire que vous soyez vous-même votre propre policier, votre propre flic, hein, en connaissant les règles, etc., et qui est fait pour détruire votre individualité. Parce que l'individualité, c'est le contraire, c'est ce qui risque justement de vous distinguer des autres. Le totalitarisme, il faut faire en sorte que personne ne se distingue de personne. Ce qui est totalement faux, parce que ceux qui appartiennent au pouvoir, à la nomenclatura, etc., ils vivent 3 fois mieux que le peuple. Mais ceux-là, on ne les voit pas, on les. Bon, d'une façon. Donc, c'est ça le total. Donc, ce destin. Donc, à partir du moment où vous êtes pris dans cette machine, ce que j'appelle la machine et les petites vis, ou les petites vis et la machine, vous n'êtes plus qu'un petit élément dans l'immense machine, et étant un petit élément de cette immense machine, votre destin vous échappe, et finalement, vous n'êtes plus vous-même. Et c'est justement ce que cherche le totalitarisme, ne plus être soi-même, que personne ne soit soi-même.
J'aimerais qu'on conclue cet entretien, Thierry Voltan, par une dernière citation, qui est un autre aspect de ce que vous avez découvert sur l'idéologie communiste. Je vous cite: En enfermant les êtres dans une complétude idéologique, la théorie marxiste-léniniste s'est placée d'emblée à rebours de l'évolution humaine, qui s'incarne pour l'essentiel dans la quête d'une liberté individuelle. Le communisme au pouvoir a pour sa part fonctionné à contre-modernité.
Mais bien sûr, si vous y réfléchissez, qu'est-ce qu'a fait l'homme tout au long de l'humanité? Au début, vous avez des croyances qui se mettent en place avec des dieux qui décident de tout, n'est-ce pas? Zeus, sous l'Antiquité, hein, voilà. Bref, ensuite est venu le monothéisme, hein, c'est vrai pour les juifs, d'abord en parlant chronologique, hein, les juifs, les chrétiens, les musulmans, hein, bon bref, tout ça, vous avez des croyances qui sont mises en place, hein, et finalement, si vous regardez comment ça fonctionne, après que ces croyances se sont mises en place, hein, qui sont des croyances qui en vérité des croyances de confort, quelque part, d'abord d'organisation de la vie sociale, ça c'est sûr. Les 10 commandements est une organisation de la vie sociale, bien sûr, évidemment, mais de confort. Hein. Bon, et à partir du moment où l'homme commence à sortir de je dirais, des premiers temps de l'humanité, hein, et commence à posséder un peu la science, on arrive aux Lumières. Hein, les fameux siècles des Lumières, hein, qui n'a pas eu concerné que la France, hein, qui est un phénomène général qui a commencé avec la Renaissance et qui s'est achevé grosso modo avec la Révolution française. Hein, bon, donc, et ce mécanisme des Lumières, évidemment, c'est un mécanisme d'émancipation par rapport à ces croyances où l'homme n'était pas pris, ne se prenait pas en charge. Bon. Et finalement, après, intervient la Révolution française, qui va emporter l'ensemble de l'humanité dans une autre dimension, plus ou moins à longue échéance, bon, bref, mais enfin, de fait, c'est ce qui va se passer. Hein, et donc, arrive justement, l'homme prend en main son pouvoir, son propre destin, ce qu'on appelle la souveraineté populaire. Hein, donc, cette volonté, alors, après on va le renfermer sous un état-nation, etc. D'accord, peu importe, mais enfin, de fait, quand même, par rapport à la croyance religieuse où de toute façon Dieu décidait de notre destin, ça change quand même quelque chose. Chacun est maître de son destin. Donc, ce mouvement, cette modernité, j'appelle ça la modernité, mais je ne suis pas le seul, c'est en vérité la modernité, ce mouvement de modernité, si vous voulez, est un mouvement continuel de l'humanité. Et bon, ça ne veut pas dire que l'homme ne se met pas en lui-même des bâtons dans les roues pour se conforter parce qu'il a peur de sa liberté. C'est un autre système, c'est une autre idée. C'est vrai que l'homme a parfois peur de sa liberté et que de fait, il invente justement des contrôles, il se met en place des contrôles pour ne pas avoir affronté cette liberté totale. Bon, ben, ce qui n'est pas mon idée à moi, mais enfin, on peut y penser comme ça. Bon, mais qu'est-ce que fait le communisme ? J'en reviens à ce que je disais à la question précédente. Le communisme va faire en sorte, le système totalitaire communiste va faire en sorte que toute individualité va disparaître et que vous êtes pris en, et que votre destin va être pris en charge par une totalité qui vous domine, globalisante, hein, qui est le parti. Hein, qui est le parti, le pouvoir, l'État, ce que vous voulez, le parti-État, comme je parle toujours de parti-État, moi. Hein, donc, une espèce d'une entité qui vous transcende, qui transcende la société, qui transcende les individus, qui transcende à la fois la société et les individus, qui sont les membres de cette société. D'accord ? Donc, finalement, le communisme est un enfermement qui est à peu près égal pour moi, et c'est pour ça qu'on parle de religion séculière. Hein, quand on parle du communisme, on dit que c'est une religion séculière, hein, qui est un enfermement religieux, hein, puisque de toute façon, on empêche les hommes d'être eux-mêmes et on les empêche d'être libres. Et de fait, sous le communisme, personne n'était libre. Hein. Donc, c'est pour ça que je parle de l'idéologie à contre-modernité, parce qu'en vérité, elle va à contre-courant de cette évolution de modernité dont j'ai parlé.
Merci beaucoup, Thierry Voltan.
Merci à vous.